Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel.
RFI Matin.
C'est l'heure de l'actualité africaine avec Arthur Ponchelet. Bonjour Arthur.
Bonjour Arnaud et bonjour à vous qui nous écoutez. À la une ce matin, le souvenir des bombes et de la panique dans les rues de Kiev, 3 ans, jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine. Un témoignage, celui d'une jeune étudiante ivoirienne qui a fui le pays. Dans ce journal, on se penche aussi sur les conséquences de ce conflit en Afrique et notamment sur le marché des engrais agricoles. Il accuse le pouvoir congolais de mauvaise gouvernance et fait Félix Tshisekedi d'avoir instauré un régime, je cite, tyrannique. En RDC, Joseph Kabila sort du silence. L'ancien président a publié une tribune hier dans la presse sud-africaine. Il estime que la guerre dans l'Est ne peut pas être réglée uniquement par les armes. Au sommaire également, on est au Mali où Human Rights Watch publie une enquête sur l'attaque djihadiste de Kobe. Et puis au Salon de l'agriculture à Paris, on vous fait vivre l'ambiance sur le stand de la Côte d'Ivoire. Le soleil n'était pas encore levé que les bombes perçaient le silence du ciel ukrainien. Il était 4h du matin le 24 février 2022 lorsque la Russie lançait sa guerre contre l'Ukraine. 3 ans et des dizaines de milliers de morts plus tard, l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine est devenue une guerre totale. Des centaines de milliers de personnes ont dû fuir le pays face à l'avancée des troupes russes. C'est le cas de cette étudiante ivoirienne à Kiev. Elle a quitté la ville en urgence quand les bombardements ont commencé et elle témoigne au micro de Christina Okello.
Ça se sentait à Kiev la guerre parce que tout le monde cherchait à se mettre à l'abri. On voyait les chars, on voyait les avions de guerre passer, mais j'ai plus entendu les bombardements lorsque j'étais dans le train pour Lviv. Il y a le train qui s'arrêtait vu qu'il y avait des bombardements dans les villes d'à côté. Au métro de Kiev, ça ne se passait pas bien parce que c'était les Ukrainiens d'abord. Parce qu'il fallait comprendre la langue, tout et tout. Il fallait vraiment se débattre. On était déçus parce qu'on se disait, on est tous humains. Les bombes, elles ne trient pas, au fait. Et on a lutté, on est rentré de force dans le train. Et voilà, après, je suis retrouvée en Pologne. De la Pologne, je suis venue en France, vu que j'avais de la famille en France. On a été confrontés au problème du fait qu'il n'y avait pas de guerre dans nos pays. On a traversé des galères, arrivé en France, on ne savait pas où mettre la tête. Franchement, on se dit que cette guerre, elle n'avait pas nécessité d'être parce que c'est des pertes en vie humaine qui n'ont rien demandé. Voilà, que si ça pouvait cesser, c'était bien.
3 ans de guerre, 3 ans de résistance, dit ce matin Volodymyr Zelensky. 3 ans aussi de bouleversements économiques majeurs en Europe et dans le monde avec le retour de l'inflation. Autre conséquence de cette guerre en Afrique cette fois, avec une forte réduction des rendements agricoles sur le continent. Claire Fage, c'est la conséquence des tensions sur le marché des engrais depuis 3 ans.
En 2022, les États africains voient soudain l'accès aux engrais russes dont ils sont très dépendants bloqué à cause des sanctions financières européennes contre Moscou. Mounir Alim, PDG d'Africom, agence de conseil sur le marché africain des engrais.
La plupart des transactions en Afrique utilisaient des banques européennes, alors que ces banques ont arrêté les transactions de la Russie. Donc ça a pris du temps pour les traders de trouver des moyens pour transporter du produit russe vers l'Afrique. Certains traders ont trouvé d'autres moyens, c'est-à-dire d'utiliser d'autres banques pour transférer l'argent. Il n'y a pas que les banques européennes qui financent ce trade.
Mais le défi principal, c'est le prix des engrais qui bondit de 400%.
À l'époque, on a dépassé les $1000 la tonne pour les engrais principaux. Donc aujourd'hui, ça a baissé. On est à des niveaux de 400 à $600, ça dépend des fertilisants.
Malgré cette accalmie, les acheteurs africains moins réactifs aux fortes et fréquentes variations de prix que le Brésil, l'Europe, l'Inde ou les États-Unis subissent cette volatilité devenue la règle, ce qui a fait rechuter les importations africaines d'engrais de 20% en 2024.
Claire Fage du service économie de RFI. Ce matin, on s'intéresse aussi aux positions africaines face à la guerre en Ukraine, des positions souvent neutres, un jeu d'équilibriste et stratégique entre les intérêts africains en Russie et en Ukraine. On en parle avec notre invitée, Djenabou Cissé, chercheuse au sein de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Elle est au micro de Lisa Fabian. Entretien à écouter sur RFI.fr. 7h34 en temps universel. Week-end relativement calme sur le front de la guerre dans l'Est de la RDC. Pas de combat signalé au nord dans le Loubéron ni au sud dans le sud Kivu. Mais week-end très politique, Joseph Kabila est sorti du silence hier. L'ancien chef de l'État congolais a publié une tribune dans un journal sud-africain. Il estime que l'option militaire n'est pas une solution au conflit dans l'Est. Il critique aussi son successeur, Félix Tshisekedi, qu'il accuse d'avoir instauré un régime qu'il qualifie de tyrannique. L'actuel chef de l'État, lui, a réuni la majorité samedi. L'occasion pour Félix Tshisekedi de réitérer sa position, à savoir pas de dialogue direct avec le M23 qu'il qualifie de pantin du Rwanda. La diaspora congolaise, elle, cherche à attirer l'attention de la communauté internationale. Un groupe de rappeurs a sorti vendredi un clip Free Congo. C'est signé Youssoupha, Damso ou encore Kalash Criminel. En deux jours, Eva Massi, il compte près d'1,5 million de vues sur YouTube.
Des millions de morts au nord qui vous, personne n'en parle. Il se passe des dingueries au pays de mes remparts.
Bien plus qu'une musique, un vrai cri du cœur. Dans Free Congo, 6 artistes dénoncent un génocide en cours dans le pays de leurs parents. Le rappeur Gradure a réuni Youssoupha, Damso, Nino, Josman et Kalash Criminel, tous d'origine congolaise. Ils posent chacun leur tour des paroles percutantes sur la souffrance des habitants de l'Est de la République démocratique du Congo. Les paroles chantées en français sont sous-titrées en anglais, comme pour s'assurer de porter le message encore plus loin. En dessous du clip, on lit une indication « S'informer, c'est agir » et les fans, et pas que, y retrouvent des suggestions de documentaires à voir sur le sujet. Et c'est ainsi que Goma, Bukavu et toute la RDC sont désormais sur la scène du rap tricolore. Avec Free Congo, Gradure et ses compagnons nous rappellent que la musique et la notoriété peuvent servir à soutenir une cause, celle d'un Congo libre et prospère.
On pense à vous, je sais qu'un jour on s'y rendra. J'ai rêvé d'un monde meilleur sans caca.
Eva Massi est toujours sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les conclusions des chefs d'état-major de l'EAC doivent être examinées aujourd'hui à Dar es Salaam. Réunion conjointe des communautés régionales d'Afrique australe et de l'Est, la SADC et l'EAC. Première étape dans la mise en œuvre des décisions du sommet du 8 février dernier. En bref, en Guinée-Bissau, les élections présidentielles et législatives fixées au 30 novembre prochain. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le président. Le 4 septembre avait pourtant été arrêté par la Cour suprême. L'opposition, elle, estime qu'Oumaro Sissoko Embalo doit quitter le pouvoir dès ce jeudi. C'était il y a 3 semaines, le 7 février, un convoi de l'armée malienne et de ses supplétifs du groupe Wagner était pris pour cible par des djihadistes du groupe État islamique au Sahel. Le convoi escortait des véhicules civils partis de Gao en direction d'Ansongo dans le nord. Vendredi, Human Rights Watch a publié une enquête sur ce drame. L'ONG de défense des droits humains a interrogé plusieurs témoins de l'attaque, y compris des personnes qui faisaient partie de ce convoi, et elle donne un bilan supérieur aux chiffres officiels avec 34 civils tués, mais surtout, David Bachet, des détails sur le contexte de l'attaque et sur la pratique contestée de ces escortes militaires.
Commerçants maliens de Gao, orpailleurs nigériens, plus d'une centaine de civils répartis dans 19 véhicules faisaient partie du voyage. 34 d'entre eux ont péri, selon Human Rights Watch. 34 autres ont été blessés. L'armée avait communiqué un bilan de 25 civils tués et 13 blessés. Ni l'ONG ni l'armée ne donnent de chiffres pour les victimes militaires. La route reliant Gao à Ansongo, comme d'autres dans la zone, est ciblée par l'État islamique au Sahel depuis plusieurs années. Hilaria Alexandre Grosi, chercheuse à Human Rights Watch.
Des commerçants qui ont l'habitude de prendre cette route nous ont dit qu'il n'y avait pas seulement des risques d'attaque, des braquages, mais aussi les groupes djihadistes liés à l'État islamique imposaient des taxes aux personnes qui traversaient cette zone.
Les escortes militaires visent à protéger les civils, mais cette pratique imposée par l'armée depuis la fin de l'année dernière, selon l'ONG, est largement critiquée par les principaux intéressés.
Les habitants de la zone, surtout les commerçants nous ont confié qu'ils ne se sentaient pas à l'aise à être accompagnés par des militaires. Les escortes armées peuvent être elles-mêmes une cible et il devient difficile de prendre pour les militaires toutes les précautions possibles pour protéger les civils. Pire encore, si les escortes sont imposées aux humanitaires, parce que ça peut compromettre la perception et leur neutralité.
Après l'attaque de Kobe, les transporteurs de la région de Gao s'étaient mis en grève pour exiger la fin des escortes et demander une augmentation du nombre de patrouilles patrouilles et de postes de contrôle de l'armée sur les routes.
David Bachet, la note du Sénégal dégradée par l'agence américaine Moody's. Elle passe de B1 à B3 avec des perspectives négatives. On y revient dans le journal de 8h30, temps universel. Direction le salon de l'agriculture avant de refermer ce journal. Ce rendez-vous international des éleveurs et agriculteurs a ouvert ses portes ce week-end à Paris. Une dizaine de pays africains sont présents pour faire découvrir leur spécialité. Hier, on était sur le stand du Soudan. Ce matin, direction celui de la Côte d'Ivoire, dont les producteurs savent très bien comment attirer les visiteurs. Reportage, Penaï Traoré.
Vivre une ambiance abidjanaise en étant au salon de l'agriculture à Paris. C'est le secret de la Côte d'Ivoire pour attirer du monde et mettre la lumière sur ses produits phares. Et ça marche.
En fait, on est voir le chocolat et puis on a découvert aussi la mangue qui a l'air très très bonne. Enfin, qui est très très bonne, j'ai goûté.
Je vais finir le paquet. C'est très très bon et en plus, ça permet aussi de découvrir un petit peu... les épices de la Côte d'Ivoire.
Ce jeune Ivoirien vivant en France ne cache pas son enthousiasme.
J'apprécie ma culture, donc je profite de l'occasion. Je prends des images pour me rappeler, pour me souvenir. Je photographie non seulement la frontière de chocolat, pour dire que vraiment la Côte d'Ivoire était présente. Et vous voyez l'ambiance que la Côte d'Ivoire met ici, contrairement aux autres pays.
Même si la Côte d'Ivoire est connue pour son café et son cacao, elle entend promouvoir d'autres produits récemment labellisés. Drissa Kone est le conseiller économique de l'ambassade de Côte d'Ivoire à Paris.
La Côte d'Ivoire a 3 produits aujourd'hui qui sont reconnus au niveau international. La tequée de Côte d'Ivoire vient d'être labellisée par l'UNESCO. Et également, on a les pains de baoulé et le café d'Aduzi Montagne. Donc l'occasion est donnée de pouvoir déguster les produits ivoiriens.
La délégation ivoirienne profitera de sa participation au Salon de l'agriculture pour inciter la diaspora à investir dans des filières comme le coton et l'anacarde.
Et c'est donc avec ce reportage signé Penaï Traoré au Salon de l'agriculture que je vous laisse en compagnie d'Arnaud Pontus pour la suite des RFI Matin.
Merci Arthur Ponchelet.